Bonjour à tous. Comme un mardi, remède à la crise avec Michel Aglietta qui publie cette semaine La double démocratie, une Europe politique pour la croissance au seuil. Pour lutter contre le repli nationaliste et la montée des populismes, nous avons un besoin absolu d'Europe. Un nouvel acte fondateur, dit-il, pour une véritable puissance publique européenne, telle est la proposition de l'économiste. Il sera notre invité à partir de 12h55. Mais d'abord, la rentrée littéraire d'hiver. Après une saga suspendue il y a 17 ans, le retour en librairie de la famille Malo. Elle a bien grandi, mais pas vieilli, tout comme lui. L'auteur de Chagrin d'école et de Comme un roman, ancien professeur devenu romancier à plein temps, Daniel Pénac est l'invité de la première partie de La Grande Table, tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Malocène, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre après la saga Le Cas. Ils m'ont menti. Le volume 1 sort aujourd'hui en librairie, toujours chez Gallimard. On y retrouve Benjamin Malocène, bouc éternel, bouc émissaire professionnel, entouré de toute sa smala qui a bien grandi, frères, sœurs, neveux, les Maras, Mosma et Seth, Clara, Luna, le petit et bien sûr Julius, le chien, troisième du nom. On y retrouve aussi la reine Zabot, patronne des éditions du Talion, et la juge Talverne, sœur de Benjamin, en charge du dossier La Pietà, du nom de cette homme d'affaires kidnappé alors qu'il s'apprêtait à palper un gros chèque, un polar enchanté. On va commencer par un silence, Daniel Pénac. Vous devez répondre aux questions, hein. Ça se passe comme ça dans vos livres.
Alors, nom Pénac, prénom Daniel, date de naissance, oh là là, 44, qualité, aucune ou toute. C'est selon l'interlocuteur.
Je ne suis pas sûre que la juge aurait apprécié cette dernière réponse. Alors, je trouvais qu'elle manque un tout petit peu de précision quand même. Qualité, écrivain peut-être.
Oui, oui, écrivain. Oui. Écrivain.
À part Alceste, Daniel Pénac, bonjour d'abord.
Bonjour.
Dans le cas Malocène, sorte de double littéraire de Lionel Duroy ou d'Édouard Louis, cet Alceste, qui fait dans le règlement de compte familial, dans le désengage tous azimuts au nom de la vérité vraie et au péril de sa vie. À part Alceste, Daniel Pénac, est-ce que tout écrivain est un menteur professionnel ?
Tout écrivain s'arrange avec la réalité, particulièrement quand il a pour projet dogmatique de la rendre telle qu'il croit qu'elle est. Ça, c'est le propre de l'écriture. Et voilà, voilà ma réponse. Quant aux autres, les imaginatifs, ceux qui racontent des histoires qui semblent très éloignées du réel, ils font quelquefois le chemin inverse. Ils en disent plus qu'on ne croit.
Et vous, vous êtes les autres ou vous êtes un écrivain dogmatique ?
Et moi, enfin, Malocène, en l'occurrence, et à travers lui, moi, j'ai toujours été amusé par les postures, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que dès qu'on se décrète l'heureux propriétaire d'une conviction qu'on met en œuvre par l'écriture ou par la politique ou pas, et qu'on prend des poses de trois quarts face à la postérité, si je puis dire, quelque chose en moi s'amuse. C'est intéressant parce que la posture m'amuse, ce qui n'empêche que je peux avoir du respect pour l'œuvre. Mais il y a quelque chose qui, dans la posture échappante à l'œuvre, est très drôle. Enfin, en gros, si vous voulez, toute personne qui adopte une posture me paraît jouer le jeu de l'éternité, comme si elle n'allait jamais mourir, ou comme si elle était déjà sa propre statue. Et moi qui ressens très fortement la précarité de notre passage, ça a tendance à me faire un peu rigoler, oui.
Malocène, Benjamin, est le narrateur malheureux de ce premier volume, le cas Malocène, de ce nouveau cycle que vous avez choisi d'ouvrir. Malheureux parce qu'il ne connaît pas la fin de l'histoire, qu'il ne connaît pas d'ailleurs les rebondissements de sa propre histoire ou de cette histoire qu'il a à nous conter, à nous raconter. Le mensonge comme une vertu littéraire, la naïveté peut-être aussi, l'ignorance ou en tout cas la méconnaissance de certaines choses dans la vie, Daniel Pénac. Quelle valeur vous accordez à ses qualités ou à ses défauts, le mensonge, la naïveté, l'innocence. Quelle place vous leur accordez ?
Malocène est clairement du côté de l'innocence, mais presque mentale du terme. C'est-à-dire qu'il raconte un récit dont il ignore qu'il est le héros. Ce récit va avoir des conséquences qui vont forcément lui tomber dessus. Et le lecteur, lui, est au courant. Ce qui, j'espère, flanque le lecteur dans une trouille empathique pour le héros. C'est son rôle dans ce volume-là. Ils m'ont menti. Quant au mensonge, c'est vraiment une question complexe. De toute façon, on est là jusqu'à demain matin.
Oui, oui.
Alors, si vous posez la question au pédagogue, par exemple, le pédagogue, professionnellement, il n'a eu affaire qu'à ça toute sa vie. Le nombre d'élèves qui m'ont menti parmi les 3000 et quelques auxquels j'ai enseigné m'en ont beaucoup appris sur le mensonge et sur la réaction à avoir. Si un gosse vous ment, un élève vous ment sur un devoir non fait, etc., de deux choses l'une, ou vous faites semblant de le croire et il est foutu, parce qu'il va penser que le mensonge est absolument légitimé par votre complicité, ou vous l'engueulez comme du poisson pourri en moralisant l'affaire à l'excès, et il est foutu, parce que vous refermez toutes barrières, ou vous dites ce mensonge est conjoncturel, et l'intéressant c'est la conjoncture. Très bien, alors on va parler de la conjoncture. Et là, vous pouvez le débloquer, et vous pouvez lui faire opter pour la réalité telle qu'elle est, et qui n'est pas dramatique. Il s'agit de dédramatiser le réel. Le menteur est quelqu'un qui dramatise le réel. C'est pour ça qu'il ne vous la sort pas, la réalité, puisqu'elle lui paraît dramatique, donc il va préférer vous mentir.
C'est étonnant, vous n'arrêtez pas d'opposer la réalité au mensonge, et pas la vérité au mensonge.
Mais parce que le menteur est celui qui vous fait passer la réalité pour ce qu'elle n'est pas. Donc il vous rend fou. Puisque si vous le croyez, vous vivez dans un autre univers que celui où vous pensez vivre. Et c'est plutôt lié à la réalité qu'à la vérité comme vertu cardinale. C'est pas la vérité, hein.
Après quoi vous courez, vous, Daniel Pennac ? Après quoi vous écrivez ?
Ça, c'est la question que la juge Talverne, dans le roman, se pose à propos de Georges Lapieta, qui est un homme d'affaires très prolixe, extraordinairement bavard. Et elle se demande autour de quel silence parle cet homme, qu'est-ce que cette logorée cache. C'est une question qu'on peut légitimement poser à l'écriture, à partir du moment où, ayant atteint un certain âge, vous avez écrit un certain nombre de livres qui contiennent un certain nombre de pages, on peut se dire à quoi ça sert tout ça, qu'est-ce qu'il cache, Je crois que je ne cache rien, c'est la forme que prend mon dynamisme. J'ai un dynamisme vital, une vitalité, si vous voulez, qui n'est pas absolument frappante dans la vie. C'est une vitalité de charentaise. Et ça produit de l'écriture chez moi. Voilà, une vitalité qui produit de l'écriture, si vous voulez.
La juge Talverne, qu'on appelle aussi la muette, sous votre plume qui traque les silences, ce brave Malocène.
Pourquoi... C'est la sœur de Benjamin.
C'est sa sœur.
C'est Verdun, oui.
Pourquoi ce brave Malocène, vous avez choisi de le sortir de son sommeil après 17 ans ? Qui vous le réclamait ? Vous-même ?
Le désir de cette écriture particulière. J'avais envie de retrouver cette écriture qui est une écriture spécifique que j'avais mise au point pour écrire les Malocènes, qui est une écriture héritée de dont les influences nous amènent vers certains grands auteurs du roman noir, comme Chandler, Jérôme Charine, des gens comme ça, qui pratiquaient la métaphore en lieu et place, soit de la description, soit de l'analyse psychologique. Et ça m'avait tellement enchanté quand j'avais découvert le genre du roman noir, que je m'étais dit, je vais produire ma propre écriture rythmique et métaphorante comme ça. Et j'ai juste simplement eu envie de replonger dans cette eau-là,
C'est juste une question d'écriture. On peut se dire aussi que votre écriture a elle aussi, comme votre personnage, grandi ou peut-être vieilli. Ça, c'est à vous d'en juger. Simplement évoluer. Ce Malocène, au fond, pour vous, c'est quand même une sorte de héros ou c'est une béquille? Est-ce que c'est un double littéraire, quelque part, qui vous rassure? Vous parlez de retrouver cette écriture.
Oui, mais c'est lui qui incarne cette écriture, puisqu'il y a énormément de monologues. Ce garçon parcourt énormément l'intérieur de sa tête. Et c'est lui qui produit, sans le savoir. Il ne sait rien, d'ailleurs. Il ne sait rien de ce qu'il produit, ni littérairement, ni factuellement. Enfin, il fait des tas de sottises qui vont lui retomber dessus, absolument sans s'en apercevoir. Et j'aime bien, oui, cet innocent. C'est un innocent, c'est réellement un innocent.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique.
Top, né au Maroc, grandi à Nice, Daniel Pénac, le massif du Vercors. Vous vous y cachez tous les étés parce qu'il n'y passe jamais personne, avez-vous dit un jour. L'endroit idéal, en tout cas, pour planquer un auteur menacé, dans le cas Molossène volume 1. Et c'est déjà là qu'était née l'une de vos héroïnes de la saga des Malocènes, Julie Corançon, qui porte le nom d'un village, c'est
oui,
ça,
oui.
De la région.
Oui, oui.
C'est aussi là que la petite marchande de prose se terminait. Le Vercors, comment vous avez connu cette région? Pourquoi vous y êtes aussi attaché?
J'y ai trouvé, il y a donc plus de 30 ans maintenant, des amis m'y ont prêté une maison dans laquelle j'ai écrit les Malocènes. Donc, c'est une sorte de double attache, l'amitié de ces amis Schneegans, qui en allemand signifie loi des neiges, ce sont des Alsaciens. Et l'écriture, j'ai Au bonheur des ogres, la fée carabine, la petite marchande de prose, je les ai entièrement écrits dans le Vercors pendant mes vacances de prof.
Et là encore, ce volume 1 a été écrit dans le Vercors.
Oui, hein, oui, et j'en viens là d'ailleurs, hier j'y étais.
On vous en a sorti.
Oui, oui, hier j'y étais.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, Joseph. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Daniel Pénac, vous mentez un peu en écrivant. Alain Bachung, lui, c'est la nuit qu'il ment. La nuit, je mens. Et c'est dans le Vercors qu'il saute à l'élastique. C'est difficile quand on lit certains passages effectivement qui se passent dans le Vercors de ne pas penser à cette très belle chanson d'Alain Bachung. Vous avez encore des montagnes de questions dans les bottes aussi, Daniel Pénac.
Quel poète, hein, celui-là. C'est incroyable. Incroyable. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. C'est magnifique, magnifique. En voilà que je regrette bien de ne pas avoir connu, d'ailleurs. Le nombre de gens qui partent avant qu'on arrive, c'est quand même scandaleux.
C'est vrai. Vous auriez pu l'écrire, non, La nuit, je mens, cette chanson?
Non, parce que la poésie, c'est la quintessence absolue.
Et vous n'êtes pas un poète?
Non, je regrette. Vous ne pouvez pas savoir comme je le regrette. J'aurais adoré être l'heureux auteur d'une chanson qui trotte dans la tête des gens pendant des années et des générations. Et c'est pas... Ça m'inhibe absolument cette sensation de quintessence de la poésie.
Il y a autre chose qui vous manque encore, une corde à votre arc. Vous évoquiez le plaisir d'écrire du polar à l'instant. Mais il y a aussi de l'amour et même du sexe dans le cas Malocène, volume 1. Est-ce que je peux?
Ah, faites.
La juge estima venu le moment de souhaiter le bonjour à Ludovic Talverne, son mari. La juge Talverne, qui n'avait pas encore mis ses lunettes, ni aplati et graissé ses cheveux, ni ombré d'un fin duvet sa lèvre supérieure, ni vissé autour de sa taille le kilt qui la rendait inapprochable, la juge tendit les bras à la masse floue qui s'avançait vers elle. Ludovic Talverne enleva le corps nu de sa femme que les draps libérèrent en un glissement soyeux, et la juge, au teint rose, à la peau ardente, à la lèvre gonflée, à la chevelure nocturne et au regard consentant, la juge, toute chaude encore de sa nuit moelleuse, se laissa empaler, les jambes enroulées autour de son homme, les mains à son cou, le regard dans son regard, l'un et l'autre s'appliquant à ne pas scier. La chose se passa si lentement qu'on eût dit l'accouplement d'un paresseux avec son arbre pour la saison entière. Vous avez écrit des scénarios de films, de BD, des livres pour enfants, des polars, des essais. À quand un grand livre érotique? Vous avez un don, vraiment.
Et oui, ils s'aiment, hein, ces deux-là. Ça y va, comme on disait vulgairement, dans les casernes. Oui, puis mais je l'aime bien, ma petite Verdun. Elle se pour être juge, elle se difforme. Elle se colle une petite moustache, elle graisse ses cheveux, elle s'habille avec un kilt atroce, des chaussettes de jésuite. Enfin, et elle devient évidemment horrifiante à voir, alors qu'en réalité, c'est une Malocène.
C'est son destin.
Elle est adorable quand elle était dans La Petite Marchande de prose, quand elle était bébé, c'était une espèce de petite cigale que l'inspecteur Van Tian portait sur lui. Ensuite, adolescente, pouvait se baigner dans un lavabo tellement elle était menue. Elle est très gracieuse dans la vie. Roman.
Mais vous ne me dites toujours pas, Daniel Pennac, à quand un grand roman d'amour ou un beau récit érotique? Ça ne vous plairait pas d'écrire un livre érotique?
Là encore, j'aime pas beaucoup les spécialisations. Si, on peut, hein, mais ce serait un exercice. Si le roman n'était qu'érotique et s'il devait se résumer à cela, un être qu'érotique, j'aurais l'impression de tirer à la ligne, de faire un exercice.
Jacques Tardy et Daniel Pennac sont des valeurs sûres, chacun dans son genre. En commun, un sens incontestable de la narration, un goût pour l'intrigue populaire. Leur album La Débauche, publié chez Futuropolis et Gallimard, raconte une histoire d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'était en 99, 17 ans après, vous restez deux valeurs sûres, lui du dessin, vous du genre qui se raconte des histoires, mais êtes-vous toujours en colère? Le 24 octobre dernier, invité de la Grande Table pour le dernier assaut, l'auteur de Putain de guerre, celle de 14-18, bien sûr, une boucherie que Jacques Tardy dénonce sans relâche, Tardy nous dit que oui, le concernant.
Je pense que c'est nécessaire de revenir sur ce sujet et de ne pas s'arrêter de dénoncer la guerre, dénoncer les abus, dénoncer les motivations de fric, des industriels, etc. Et puis aussi parce que selon moi, cette guerre qui apparaît bien souvent comme une vieillerie, comme quelque chose d'ancien, on aurait tendance à se moquer des anciens combattants, bien qu'il n'y en ait plus aujourd'hui, plus un seul, mais ça a été comme ça pendant très très longtemps. Eh bien, selon moi, cette guerre explique exactement, totalement, complètement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas étrangère à cette guerre quand on pense à la façon dont on a découpé artificiellement des frontières à la règle sur des cartes d'état-major au Moyen-Orient. Ce que nous vivons aujourd'hui serait peut-être une conséquence de ça, de tout ça. Moi, mon problème, c'est de parler de peut-être moins de la Première Guerre mondiale que de la guerre en général. C'est ça qui me préoccupe.
Daniel Pennac dans Au bonheur des ogres, en 85, premier tome de la saga Malocène, des bombes explosent au rayon jouet ou pullover. En 2017, chez Pennac, on enlève un richissime homme d'affaires et on réclame à son entourage une rançon d'un montant équivalent à l'euro près à celui du parachute doré qu'il s'apprête à toucher, 22 807 204 euros. À chaque époque, ces crimes, kidnapping d'un patron, chemise arrachée, ça a peut-être un peu plus de panache aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, vous souhaiteriez encore dénoncer? Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a quelque chose de politique aussi dans ce polar?
C'est pas le terme dénonciation est réducteur. Enfin, en réalité, on ne dénonce rien. On décrit la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle sera. Pour aller dans le fil de ce que dit Jacques, on va y avoir droit. Un jour ou l'autre, on aura droit sur le territoire européen, conflit national. On va y avoir droit, ça marche dans cette direction à cause de cet échec inouï, de ce effroyable gâchis européen. Quel enfant aujourd'hui en France peut s'identifier à l'Europe? Essayez d'imaginer. Quel enfant de banlieue, quel enfant, même enfant de la classe moyenne peut s'identifier à l'Europe? Et qu'en serait-il si l'Europe ne s'était pas construit comme elle s'est construite? Si on n'avait pas seulement fait l'Europe des affaires et du pognon, et si on avait effectivement décidé de faire l'Europe culturelle des peuples? Si nous avions envoyé nos petits-enfants, dès le CM1, dès qu'ils ont appris à lire et à écrire, si nous avions échangé entre allemand, anglais, français, espagnol, italien, portugais, nos enfants, d'année en année, si tous ces gosses étaient allés au contact de ces cultures, s'ils avaient eu des petits copains dans tous les pays. D'abord, nous aurions une Europe polyglotte, aujourd'hui. Ensuite, nous aurions une Europe qui serait une entité culturelle à laquelle des tas de gens pourraient s'identifier, alors que nous avons hérité d'une Europe que ces mêmes gosses qui ont grandi ne perçoivent que par rapport à ce que les médias leur en disent, c'est-à-dire les taxes, toutes les contraintes possibles et imaginables, une sorte d'emmerdement majeur, et on va avec la menace d'en sortir, etc. Nous avons raté. Cette Europe a été ratée.
La faute à l'Europe, tout est la faute à l'Europe.
C'est pas la faute à l'Europe.
Mais l'Europe qui devait nous éloigner des guerres, finalement, va nous y replonger.
À cause des nationalismes qui vont regrimper. Bien entendu, vous allez avoir la financiarisation générale va... Qu'est-ce qui va se passer? Ça va affaiblir les classes moyennes. L'affaiblissement des classes moyennes va faire monter des abrutis nationalistes. Les abrutis nationalistes vont prendre le pouvoir. Et le risque est que ça enclenche ici ou là des conflits. Enfin, j'en sais rien. D'un autre côté, je suis peut-être devenu un vieux con aussi. Hein. Il y a aussi ce facteur-là.
Vous restez un jeune anard.
Mais le vieux con se caractérise. Il a peur du réel. On va avoir la guerre. Non. Non, mais en réalité, c'est un... Vous me demandiez qu'est-ce qui vous scandalise aujourd'hui. Franchement, ce gâchis européen est incroyable. Le gâchis culturel européen est absolument incroyable. C'est un suicide.
C'est ce qui vous révolte?
Bon, ça me révolte pas, mais je le constate et ça m'énerve, quoi. Mais on peut encore le réparer. C'est-à-dire qu'on peut, cette Europe culturelle, cette Europe d'échange des générations, pas seulement les grands, comme on le fait aujourd'hui, hein, avec les tout-petits-enfants, mélanger tout ça, c'est le seul moyen de ne pas se foutre sur la gueule à terme. C'est le mélange culturel.
L'économie du foot, les parachutes dorés, la guerre des polices, la justice injuste, on retrouve tout ça aussi en filigrane dans le cas Malocène, Daniel Pénac. On va reparler de l'Europe avec l'invité de la deuxième partie de la Grande Table, l'économiste Michel Agliata, qui a une idée pour essayer de sauver l'Europe. Un nouvel acte fondateur, il nous en reparlera à partir de 12h55.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Daniel Pénac, dans l'actualité culturelle, il y a aussi le très beau spectacle Choteau Desch du danseur et chorégraphe Akram Khan. Desch comme terre natale, solo inoubliable qu'il a recréé pour les plus jeunes. Et c'est à voir en ce moment jusqu'au 6 janvier au Théâtre des Abbesses.
Oh, j'ai créé mon solo avec Kartika Nair, hein, qui a écrit Desh avec moi et avec d'autres collaborateurs. Voilà, j'espérais devenir père à un certain moment. Et je me suis dit, mais comment est-ce que mes enfants vont voir certaines de mes pièces ? Et donc, j'ai commencé à développer une fascination pour les enfants, pour les spectacles pour enfants. Et je me suis dit, peut-être, je peux faire quelque chose pour les enfants. Et j'ai pas vraiment osé. Et j'ai inventé Sue Packmaster. Elle fait des spectacles pour enfants. Et je l'ai invitée à faire ce spectacle, en fait, pour moi. Et ça a été magnifique, en fait, d'avoir un peu de recul et d'expérimenter d'être au sein du public avec les enfants, hein, et de voir un spectacle qui était à l'origine un de mes spectacles, mais qui avait été revisité par quelqu'un. J'essaye toujours de retourner au corps de l'enfant, parce que les enfants ont moins de barrières que nous, hein.
Les enfants ont moins de barrières que nous, c'est pas vous qui diriez le contraire, Daniel Pénac, hein. Akram Khan, à voir ce spectacle au Théâtre des Abbesses jusqu'au 6 janvier, vous qui parliez de mélange, voilà, il y revient sur son pays natal, le Bangladesh, et puis son exil en Grande-Bretagne. Je vous adore, Daniel Pénac, parce que dans ce livre, vous avez employé une tautologie au jour d'aujourd'hui, et ça, je vous en remercie. C'est-à-dire que grâce à vous, c'est officiel, on peut redire au jour d'aujourd'hui.
Oui, parce qu'on vous a beaucoup grondé, parce que vous l'aviez dit.
Oui, une fois,
mais
à l'antenne.
Mère campagnarde parlait comme ça et je vous y autorise. Je vous autorise même à dire autre chose. J'en avais une qui disait, quand on l'interrompait, elle disait « Quand on cause pas ». Eh bien, Olivia, je vous autorise aussi à dire « Quand on cause pas ».
Au jour d'aujourd'hui, on va causer. Je vous recommande de lire le cas Malocène. Ils m'ont menti, volume 1, il y en aura... Deux, c'est décidé comme ça
si
pour l'instant, écrit évidemment dans le Vercors. C'est paru chez Gallimard. Merci beaucoup, Daniel
Pénac. Merci à vous.